Cannes, la voix de l'Amérique. Bienvenue au service francophone vers l'Afrique. Tous les matins, du lundi au vendredi à 5h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur les ondes de VOA Afrique Le Monde. Aujourd'hui, édition du mardi 25 novembre 2014, au micro Bagassi Koura et Anne Alberson. Bonjour Anne.
Bonjour Bagassi, bonjour à tous.
Au sommaire ce matin, de violentes échauffourées ont éclaté depuis hier soir dans les rues de plusieurs villes américaines. Cela fait suite à la décision d'un grand jury populaire de ne pas poursuivre un policier blanc qui a tué cet été Michael Brando, un jeune noir sans armes. Le président Barack Obama a appelé ses compatriotes au calme.
I join Michael's parents in asking anyone who protests this decision to do so peacefully.
Le sultan de Sokoto, chef des musulmans du Nigeria, a accusé hier l'armée de fuir lâchement face aux islamistes de Boko Haram.
Et puis le Ghana a annoncé hier soir avoir signé un contrat d'exploration offshore de 6 milliards de dollars avec Eni, un géant italien du pétrole.
Sans oublier nos pages sport bien sûr et la musique, mais d'abord le journal. De violentes échauffourées ont éclaté hier soir dans les rues de la petite ville américaine de Ferguson, dans le Missouri, et aussi dans plusieurs villes du pays, après la décision d'un grand jury populaire de ne pas poursuivre un policier blanc qui a tué l'été dernier un jeune noir sans armes. Le policier américain Darren Wilson, qui échappe à toute poursuite judiciaire, a abattu de 6 balles début août Michael Brown, un jeune noir. À Ferguson, donc dans le Missouri. La famille de Michael Brown s'est dit déçue et ici à Washington, le président Barack Obama a exhorté ses concitoyens à accepter le verdict et à protester s'ils le veulent, mais sans violence.
I join Michael's parents in asking anyone who protests this decision to do so peacefully.
Je me joins aux parents de Michael Brown pour demander à quiconque veut protester contre cette décision de le faire pacifiquement. Laissez-moi répéter les mots du père de Michael. Faire du mal aux autres ou détruire des biens n'est pas la bonne réponse.
Et immédiatement après le verdict, nous avons joint le professeur Jean-Germain Gros, professeur de sciences politiques à l'Université du Missouri à Saint-Louis.
Je dois dire qu'au moins dans la communauté noire, on attendait cette décision depuis le mois d'août. Parce que le procureur, c'est quelqu'un qui est très proche de la police. C'est quelqu'un dont les membres de la famille sont policiers. Son père même était tué par un noir quand il était très jeune. Le procureur avait un autre choix. Il pouvait lui-même prendre la décision. Mais il a décidé de passer par le grand jury. Donc on peut dire qu'il n'a pas fait son boulot.
Voilà, c'était le professeur Jean-Germain Grosjean dans le Missouri. Et ici, toujours aux États-Unis, le secrétaire à la Défense Chuck Hagel a démissionné hier après près de 2 années de service. Seul républicain dans le gouvernement de M. Obama, il a assuré qu'il restera à son poste jusqu'à ce que son successeur soit confirmé. De hauts responsables du gouvernement que cite le New York Times disent que la démission de M. Hagel est intervenue sous pression sur diverses controverses, notamment concernant la guerre contre le groupe État islamique en Syrie et en Irak. Écoutons l'analyse du professeur Jim Caesar de l'Université de Virginie à Charlottesville.
Il a suivi le président, il a soutenu ses politiques. Est-ce que c'est ça le problème? Il n'a pas suffisamment dit de bonnes stratégies, même des fois contre le président? Ou est-ce que c'est le cas que, une ou deux fois, il a pris un peu de distance du président en critiquant un peu le président? Ce qui est arrivé en ce qui concerne l'État islamique, quand le président a dit au printemps qu'il ne fait pas grand-chose, alors que Hegel a dit non, c'est une chose très, très dangereuse, etc. Et les proches du président n'étaient pas à ce moment-là très contents.
Chuck Hagel est un républicain. Faut-il voir ici une situation qui pourrait entraîner une démission?
Personne n'a vu le fait qu'il allait démissionner, à mon avis. On n'a pas parlé de ça avant la semaine dernière.
Voilà, c'était Jim Caesar, professeur de sciences politiques à l'Université de Virginie à Charlottesville.
Et le président Barack Obama a remis lundi la médaille de la liberté, la plus haute distinction civile américaine, à 18 personnalités, dont l'actrice Meryl Streep, avouant une admiration sans limite pour l'actrice de Out of Africa, l'écrivaine Isabelle Allende, le démocrate John Dingell, élu de la Chambre des représentants depuis 1955, ou encore l'économiste Robert Solow, faisait également partie des personnes décorées de cette médaille de la liberté.
Les grandes puissances mondiales et l'Iran ont convenu de poursuivre leurs discussions jusqu'en 2015 afin d'aboutir à un accord nucléaire. Ces pays ont échoué pour la deuxième fois cette année à trouver un accord mettant fin à l'impasse sur les ambitions nucléaires de Téhéran. Le secrétaire d'État américain John Kerry a cependant fait cas de progrès hier lundi sur certains points d'achoppement. Toutefois, Kerry a averti que les puissances internationales ne vont pas attendre indéfiniment pour voir des signes de progrès tangibles.
Au moins 2 soldats de l'OTAN et 6 civils ont été tués dans 2 attaques violentes en Afghanistan. Dans une déclaration lundi, les responsables de l'OTAN ont précisé que les 2 soldats ont été tués dans l'est de l'Afghanistan, sans toutefois préciser leur nationalité. La police de Kaboul, citée par l'Associated Press, affirme que les soldats ont été tués lorsqu'une bombe attachée sur une bicyclette a explosé près d'un convoi militaire dans la capitale afghane. Plus tard lundi, une bombe attachée sur une moto a explosé dans un marché dans le nord de la province de Kunduz, tuant 6 civils. Aucun groupe n'a revendiqué la responsabilité de l'une des 3 attaques.
Quelques 7600 milliards de dollars, soit 8% de la richesse mondiale, sont détenus par des particuliers dans des paradis fiscaux. C'est ce qui ressort d'une récente étude parue dans le Journal of Economic Perspective. Les ménages européens arrivent les premiers avec quelques 2600 milliards localisés dans les États qui mêlent faible fiscalité et opacité financière, affirme le français Gabriel Zucman, professeur assistant à la London School of Economics.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En République démocratique du Congo, une centaine de personnes ont été tuées en fin de semaine dans la région de Beni, dans l'est du pays. Le gouvernement a imputé cette nouvelle tuerie aux ADF, les rebelles ougandais des forces démocratiques alliées. Près de 200 civils ont été massacrés en moins de 2 mois dans cette région explosive où l'ONU appelle à neutraliser les forces négatives.
Le sultan de Sokoto, chef des musulmans du Nigeria, a accusé hier l'armée de fuir lâchement face aux islamistes de Boko Haram. Les précisions de Michel Joseph.
Le communiqué de l'Organisation des musulmans du Nigeria, s'exprimant au nom du sultan de Sokoto, Mohamed Saad Aboubakar, ne mâche pas ses mots. Il dit que les soldats nigérians prennent leurs jambes à leur cou, abandonnent leurs bases, leurs armes, leurs munitions et tout leur équipement militaire à l'approche des insurgés. Le texte ajoute que l'armée ne refait surface qu'à la fin des attaques meurtrières et terrorise davantage des populations déjà terrorisées. La semaine dernière, l'émir de Kano, Sanusi Lamido Sanusi, deuxième autorité musulmane du pays, avait lui aussi mis en doute la compétence de l'armée et affiché son soutien aux miliciens locaux qui font face aux islamistes. De virulentes critiques qui ont lieu alors que le président Goodluck Jonathan est déjà en campagne pour sa réélection en février prochain. L'état d'urgence qu'il avait instauré a expiré jeudi. Boko Haram, qui a multiplié les attaques meurtrières, a proclamé son califat dans les zones sous son contrôle dans le nord-est du pays.
Au Burkina Faso, lors du premier conseil des ministres de transition, le premier ministre intérimaire, Isaac Zida, a promis d'engager des réformes et de lutter contre la corruption. 3 semaines après avoir pris le pouvoir, l'armée burkinabé a obtenu des postes clés dans le gouvernement de transition, annoncé dimanche.
Le Ghana a annoncé hier avoir signé un contrat d'exploration offshore de 6 milliards de dollars avec Eni, le géant italien du pétrole. Le point avec Jean-Roger Bion.
Le ministre ghanéen du pétrole Emmanuel Arma Kofi Boa a confirmé la signature de ce contrat concernant le bloc Cape Three Points qui doit entrer en production à la mi-2017. Le ministre de l'Énergie a souligné que la production de gaz, volet de l'accord avec Eni, permettra aussi d'augmenter la production d'électricité pour faire face aux fréquentes coupures de courant dans le pays. Une usine de traitement de gaz qui doit ouvrir en décembre avec une année de retard pourra produire à terme 500 mégawatts. Ces dernières années, le Ghana a connu une forte croissance qui a été atténuée par l'inflation et la dette publique. Deuxième puissance économique d'Afrique de l'Ouest, grâce à ses exportations d'or et de cacao, ce pays produit environ 100 000 barils de pétrole par jour, ce qui est presque une goutte d'eau comparé au grand voisin, le Nigeria, premier producteur africain avec près de 2 millions de barils par jour.
Un médecin italien contaminé par le virus Ebola en Sierra Leone devait être rapatrié cette nuit à Rome, dans un centre médical spécialisé, selon le ministère italien de la Santé, cité par l'AFP. Selon le communiqué du ministère, le docteur travaillait pour l'ONG Emergency et traitait des patients atteints d'Ebola à Laka, à une quinzaine de kilomètres à l'ouest de Freetown, la capitale de la Sierra Leone.
Au Maroc, au moins 32 personnes sont mortes dans des intempéries dites exceptionnelles dans le sud du royaume. La plupart des victimes ont été emportées par les eaux. Les précisions d'Eddie Isango.
Le dernier bilan fait état de 32 morts et 6 personnes toujours portées disparues. 214 personnes ont pu être sauvées, dont 14 hier matin par des hélicoptères. Les inondations ont touché des larges secteurs au pied des massifs de l'Atlas, dans le sud marocain. Le secteur de Guelmim, à environ 200 km au sud d'Agadir, est le plus touché avec au moins 24 morts. 6 personnes, dont une fillette, ont été emportées par les eaux. Hier, les journaux ont affiché en une les photos des eaux boueuses charriant arbres et véhicules, coupant les routes et les ponts. Les dégâts matériels sont importants. Des dizaines de maisons traditionnelles empisées ont été détruites. Beaucoup d'habitants sont sans domicile. Les autorités ont fait savoir que le ministère de l'Intérieur, les forces armées et la gendarmerie royale poursuivent leurs efforts pour secourir les personnes encerclées par les crues.
Voilà, donc c'est tout pour notre journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur La Voix de l'Amérique. Au micro, Bagassi Koura. On enchaîne sur la partie magazine de notre émission. Un nouveau rapport Amnesty International affirme que l'entreprise General Malta Forest, filiale du groupe Forest International, a permis en 2009 la démolition au bulldozer de centaines d'habitations en RDC et a privé ainsi les victimes de justice. Pour appuyer ces dires, l'ONG présente notamment des images satellites d'Eli Mawazo, chercheur sur la RDC à Amnesty International.
La compagnie, dans ce premier temps, avait nié les démolitions des maisons des habitants habituels de Kawama et s'était borné à dire que seules les tentes ou les maisons passagères de trésors illégaux avaient été démolies. Ce n'est que plus tard qu'il y a quelques jours que la société a brièvement indiqué qu'elle ne réfutait plus les informations. Et donc ça, c'est le premier élément du mensonge du groupe Forest International. Et le deuxième élément du mensonge du groupe Forest International vient du fait qu'il niait toute responsabilité dans la démolition et avait affirmé avoir été sous une contrainte irrésistible pour faire participer ses agents et ses engins dans la débâcle de démolition. Mais Amnesty International a pu obtenir des preuves tangibles indiquant que non seulement la société n'avait pas pris les mesures adéquates pour dénoncer, parce que, pour rappel, les démolitions ont eu lieu le 24 et le 25 et que la société n'a pas pu protester et n'a pas pu démontrer qu'elle a pris des mesures pour éviter que ces agents et ces engins soient utilisés dans les démolitions illégales des maisons des habitants du Kawama. Et la deuxième chose est que le ressort du dossier qui a été instruit par le parquet de Lubumbashi, le parquet général de Lubumbashi, que les chauffeurs des engins ont reconnu avoir reçu des ordres de la part de la société pour aller participer à la démolition des maisons des habitants et non pas des abris provisoires des creuseurs.
Amnesty International a pu rétablir la vérité à l'aide d'images satellitaires?
Non seulement à l'aide des images satellitaires, mais aussi à l'aide des centres sur terrain. Amnesty en a effectué plus ou moins 3. À Kawama même, a parlé aux victimes de démolition, a parlé aux autorités congolaises et a pu s'entretenir à plusieurs reprises avec le délégué de la société Groupe Forest International, ce qui fait que Amnesty a pu confronter les différentes sources, a pu recevoir des communications de la part de la société et on a pu contrebalancer les allégations des uns et des autres et Amnesty soutient que la société a jusqu'ici menti.
Voilà, c'était Deli Mawazo, chercheur sur la RDC à Amnesty International. Il était joint au Kenya par Camille Gros-Didier. Et ajoutons que selon Associated Press, le ministre congolais de l'Information et porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, s'est dit surpris par le rapport. Amnesty International ne peut pas être plus royaliste que le roi, a dit M. Mende. L'ONG devrait laisser la justice faire son travail, a-t-il conclu.
Retrouvez La Voix de l'Amérique en RDC sur Radio Mungano, à Beni, au Nord Kivu, sur 95.10 FM.
En République centrafricaine, l'exploitation de la mine d'or de Ndassima, propriété de la société canadienne Axmin, a été arrêté en 2011 suite à l'insécurité croissante dans la zone. Les rebelles de l'ex-coalition Seleka contrôlent le site à ce jour, privant le gouvernement de Bangui d'une importante source de revenus. Voici un reportage sur le terrain de Katharina Hodge, repris par Félix Yepassis Zembrou.
En 2013, un effondrement dans la mine de Ndassima avait fait une vingtaine de victimes, amenant le président de l'époque, le chef rebelle Michel Dotodia, à décréter un deuil national. Plusieurs milliers de personnes y pratiquent l'exploitation artisanale. Les autorités locales sont impuissantes. Ce sont les ex-rebelles Seleka qui achètent l'or, explique un mineur, Frédéric Ningando.
Nous sommes des habitants centrafricains, mais il n'y a pas de gouvernement maintenant. Nous travaillons seulement sous ordre des Seleka. Nous avons pêché là-bas à Briac pour venir ici chercher à manger. Ils sont ici encore. Il faut comprendre ce que nous sommes en train de dire.
Ningando a fui Briac en décembre 2012 pour échapper aux rebelles. À son arrivée à Ndassima, il les a retrouvés. Suite au retrait de l'armée centrafricaine du secteur, les Seleka se sont présentés comme les nouveaux protecteurs des prospecteurs. C'était pour profiter de leur labeur, affirme un commerçant, Ibrahim Kodégué, qui achète de l'or aux mineurs.
Là où nous sommes, les bailleurs ont plus crainte de venir. Ils ne peuvent pas venir sur le terrain. Mais nous annonçons que ces bailleurs-là n'aient pas de crainte et arrivent ici travailler avec nous tellement pour payer de l'or et arriver et amener chez eux.
Les mineurs de Ndassima se rendent à Bombari, à la localité la plus proche, pour vendre leur or à des Tchadiens ou des Soudanais qui ont remplacé les dealers venant de Bangui. Les ex-Seleka contrôlent la route menant à Bombari. Selon Kodégué, ils servent souvent d'intermédiaires tout en assurant la sécurité.
Ici à la sécurité, je crois que le général Ali, avec qui on est ensemble au niveau de Bombari, il a pris la sécurité de la zone. Et il a envoyé des bases avancées ici qui nous permettent de travailler facilement, sans difficulté. Donc ici, on est stable, on est aisé, on n'a pas de difficulté. Sans mentir, mais c'est le problème d'argent seulement.
Il faut coopérer avec les Seleka jusqu'au retour de l'autorité centrale, ajoute Kodégué. À Bangui, les trafics de ressources naturelles ont un impact dévastateur sur le gouvernement intérimaire qui se trouve privé des revenus qui pourraient l'aider à rétablir son autorité. Les trafiquants sortent leurs minerais de la RCA, d'autant que l'État centrafricain perçoit une taxe à l'exportation de 12% sur les diamants, 3,2% en République démocratique du Congo et 5% au Congo-Brazzaville. Le Cameroun impose moins l'or que la Centrafrique. Les sociétés minières redoutent qu'avec l'intégration du Cameroun au sein du processus de Kimberley, la fraude n'augmente. En mai 2013, Bangui a été suspendu du processus de Kimberley, le système international de certification des diamants bruts. Les mineurs de Ndassima souffrent de cet embargo, mais le commerce se poursuit, ajoute-t-il.
Aujourd'hui, l'or, s'il n'y avait pas de l'or, notre vie devait être difficile. Nous sommes des citadins, on est des pauvres. On est obligés de nous rassembler entre nous, malgré toutes les difficultés, de nous rassembler, nous associer, nous unir, nous aimer entre nous, travailler en collaboration. En attendant, puisque ce sont des travaux artisanaux, ce ne sont pas des travaux industriels, ce sont des travaux artisanaux. Donc les acheteurs aussi sont artisanaux, ce sont des petites productions.
Impossible de prédire quand la société canadienne Axmin reviendra à Ndassima ou si elle reviendra. En dépit du déploiement en Centrafrique de soldats de maintien de la paix français et onusiens, la violence perdure. Par ailleurs, en septembre, une partie de la mine s'est effondrée, ensevelissant au moins 27 mineurs artisanaux. Depuis, la production a repris au péril des vies humaines.
La Voix de l'Amérique en République centrafricaine, à Bangui, sur 101.7 FM.
Voilà, parlons science à présent. Le prochain Einstein viendra de l'Afrique et c'est mathématiquement prouvé. Foi de Thierry Zomahoun, il est le président de l'Institut africain des mathématiques ou AIEMS, fondé en 2003 et implanté en Afrique du Sud, au Sénégal, au Ghana, au Cameroun et en Tanzanie. Il était de passage ici à Washington pour promouvoir la Next Einstein Initiative, un projet de construction de 15 centres à travers le continent africain d'ici 2023. Il s'agit aussi d'identifier les meilleurs jeunes scientifiques africains qui seront à l'honneur lors du Forum scientifique mondial prévu à Dakar en 2015. Dans un entretien accordé à Jacques Aristide, le patron de EMS s'est dit persuadé que les sciences mathématiques aideront à relever les défis de l'Afrique. Thierry Zomahoun.
Les problèmes et les conflits politiques sont en train d'être résorbés par la gouvernance. Et la gouvernance, du point de vue sociologique, a montré ses limites. Il faut y injecter des données mathématiques. Maintenant, sur la crise d'Ebola, c'est une réelle situation aujourd'hui qui ébranle l'humanité. Et pourtant, on savait que cette pandémie existait depuis 40 ans. Et donc, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est que dans notre réseau, nous avons de jeunes brillants mathématiciens, épidémiologistes, qui sont en train d'aider certains États, comme le gouvernement du Libéria, à attaquer ce fléau. Il s'agit de faire une cartographie, une modélisation de la manière dont le virus peut progresser au cours des 30, 40, 50 prochaines années. Si on le sait aujourd'hui, eh bien, on va élaborer des politiques de santé publique adéquates.
En quoi, par exemple, les maths peuvent aider à créer des emplois pour les jeunes en Afrique?
Les sciences mathématiques sont une réponse claire au problème de chômage. Parce que quand vous êtes un mathématicien, vous avez les compétences qu'il faut pour créer, compétences pour innover, compétences pour entreprendre dans tous les secteurs d'activité humaine, environnement, banque, finance, santé. À l'Institut panafricain des sciences mathématiques, l'objectif, c'est de former des jeunes Africains capables de résoudre des problèmes, de les former à entreprendre au lieu d'attendre que le gouvernement et d'autres personnes leur donnent du boulot.
Le Next Einstein Initiative, parlez-nous de ce projet. Comment profite-t-il aux jeunes Africaines et Africains?
L'initiative vise à former une masse critique de jeunes leaders scientifiques africains. L'initiative vise à étendre sur le continent 15 centres d'excellence de haut niveau, de façon à ce que nous puissions préparer les conditions favorables pour que le prochain Einstein vienne du continent africain.
Et le prochain Einstein viendra du continent?
Absolument. C'est mathématiquement prouvé à cause de la démographie. En 2050, un jeune sur quatre sera africain. Pendant que beaucoup d'autres régions continentales sont en train de vieillir, l'Afrique comptera plus d'un milliard de jeunes. C'est le plus gros vivier de talents scientifiques et techniques disponibles pour l'Afrique, mais aussi pour l'humanité. Et donc, quand vous regardez la loi de la probabilité pour que le prochain Einstein vienne de l'Afrique est plus grande que le prochain Einstein vienne de l'Europe.
Voilà, c'était Thierry Zomahoun, président de l'Institut africain des mathématiques.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Retour sur les événements ici aux États-Unis. De violentes échauffourées ont éclaté hier soir donc dans les rues de la petite ville américaine de Ferguson, mais aussi dans plusieurs autres villes du pays, après la décision d'un grand jury populaire de ne pas poursuivre le policier Darrell Wilson, un policier blanc qui a tué cet été le jeune noir Michael Brown sans armes. Le policier américain donc qui échappe à toute poursuite judiciaire a abattu de 6 balles début août ce jeune noir, qu'il a battu de 6 balles donc à Ferguson dans le Missouri. La famille du jeune noir Michael Brown s'est dit déçue et à Washington, Obama a exhorté ses concitoyens à accepter le verdict et à protester s'ils le veulent sans violence. Immédiatement après le verdict, nous avons joint le professeur Jean-Germain Gros. Il est habitant du Missouri et professeur de sciences politiques à l'Université du Missouri à Saint-Louis.
Non, ce n'est pas une surprise. On s'y attendait parce que le procureur, c'est quelqu'un qui est très proche de la police. C'est quelqu'un dont les membres de la famille sont policiers. Son père même était tué par un noir quand il était très jeune.
Est-ce que ces derniers jours, parce qu'on a vu quand même un peu de tension dans la ville là-bas, est-ce que ces derniers jours, vous avez senti que les gens se préparaient à cela?
Pas forcément. Les gens ne sont pas prêts à accepter la décision du jury, mais je ne dirais pas qu'on se préparait. Mais on espérait quand même que justice serait faite, ce qui n'est pas évidemment le cas.
Et là, on a vu qu'il y a déjà certaines manifestations qui ont repris immédiatement après l'annonce du verdict.
Oui, justement, il y a eu certaines confrontations. Il y a même une voiture de la police qui a été attaquée.
On sait que la famille a appelé à manifester paisiblement et Obama aussi a appelé au calme. Est-ce que ces messages ont une chance d'être entendus?
Bon, ce message a une chance d'être entendu, mais pas forcément par tout le monde. Il y a quand même certaines personnes, comme je viens de le dire, qui ne vont pas écouter ce message.
La plupart de nos auditeurs se trouvent en Afrique, hein, et quand ils regardent les États-Unis, ils voient un président noir. Mais ils sont quand même assez choqués de voir que ce genre d'événement continue d'exister des années après la lutte pour les droits civiques.
Oui, mais le fait qu'on a un président noir, ça ne veut pas dire que tous les problèmes sont résolus. Hein? Les États-Unis, vous savez que nous avons un pays assez complexe. Il y a encore des gens, n'est-ce pas, qui ne veulent pas le progrès. Ils ne veulent pas avancer dans le sens que d'autres veulent avancer, c'est-à-dire une société non raciste, une société où tout le monde peut avoir sa chance.
Pour terminer, un mot sur le grand jury, c'est quoi exactement?
Le grand jury, c'est un groupe de personnes, je crois ils sont au nombre de 12. Ils sont totalement, disons, anonymes. Et ce sont ces personnes qui ont évidemment décidé de ne pas poursuivre M. Wilson en justice.
Voilà, c'était le professeur Jean-Germain Gros, professeur de sciences politiques à l'Université du Missouri à Saint-Louis. Voilà, vous écoutez VOA Africa, c'est l'heure des sports. On commence par du football et des nouvelles de Pelé. La légende du football brésilien, Pelé, donc, a été hospitalisé hier à São Paulo, quelques jours après avoir été opéré de calcul rénaux. Et selon la presse brésilienne, après des examens, les médecins ont diagnostiqué chez Pelé une infection urinaire. José Fernandes Rodrigues, ami et collaborateur du roi Pelé, a déclaré à l'AFP que l'ancienne star du football devait passer cette nuit à l'hôpital. Il avait été opéré le 13 novembre de calcul rénaux. Il avait quitté l'hôpital 2 jours plus tard. Pelé, âgé de 74 ans, est célébré comme l'un des meilleurs footballeurs de l'histoire. Il a marqué 1281 buts en 1363 matchs au cours d'une carrière qui s'est étendue des années 50 aux années 70. Le président de la Fédération uruguayenne de football, Wilmar Valdés, a confié au site Gol que la participation de Luis Suarez à la prochaine Copa América prévue du 11 juin au 4 juillet 2015 était compromise. Nous sommes en train de négocier cette question avec la FIFA. Nous avons épuisé presque toutes les options, a-t-il regretté, avant d'ajouter qu'un retournement de situation relèverait du miracle. S'il a fait ses premiers pas avec le FC Barcelone lors de la rencontre contre le Real Madrid le 25 octobre, l'attaquant, puni pour avoir mordu Giorgio Chiellini lors de la Coupe du Monde, doit purger au total 9 matchs de suspension avec sa sélection. Et pour terminer, la NBA, le championnat de basketball nord-américain, hier soir, LA Clippers ont battu les Charlotte Hornets 113 à 92. Orlando Magic est tombé face aux Cleveland Cavaliers. La nouvelle équipe de LeBron James, très décisif dans ce match avec 29 points, 106 à 174. Victoire des Portland Trail Blazers sur Philadelphie, 114 à 104. Défaite de Phoenix contre Toronto, 100 à 104. Et également défaite des New York Knicks face à Houston, 91 à 86. Nette victoire d'Indiana sur Dallas, 111 à 100. Et puis enfin, victoire étriquée pour les Bulls de Chicago, qui jouait contre Utah, 97-95. Je me tourne maintenant vers Roger Muntu pour la musique. Bonjour Roger.
Salut Bagassi et bonjour à tous les auditeurs de La Voix de l'Amérique. Ce matin, Petit Pays nous chante Croquet Café.
Croquet.
Croquet.
Croquet Café.
Croquet. Croquet Café.
Croquet Café.
Croquet.
Croquet Café.
Allez, croquet, croquet, croquet,
croquet,
croquet, croquet, croquet, croquet, croquet, croquet.
Petit Pays ayant conquis son pays natal, il a pour ambition de conquérir toute l'Afrique, l'Europe, l'Amérique du Nord.
Ah ça c'est sûr Bagassi, elle travaille pour cela sur ce qui sera plus tard le Makossa Love avec sa voix de groover, créer son orchestre Les 100 Visas en souvenir de l'année 1986.
Roger en 2013, grâce à son tube Mandela Axania, datant de 1995, Petit Pays donne deux spectacles géants à Johannesburg et à Pretoria.
Évidemment, l'artiste qui résidait à l'hôtel Sheraton a entre autres visité l'ancienne maison du défunt président Nelson Mandela, devenu aujourd'hui musée. Il a également été reçu en audience à Soweto par Winnie Mandela, l'ex-femme de Nelson Mandela.
Ah, Petit Pays a bien rencontré les grands de ce monde. Merci Roger Muntu.
Merci Bagassi.
Roger Muntu que vous suivez dans RM Show chaque jour à partir de 20h temps universel.
Na benite makomo benga na usa bolene.